La guerre en Iran touche-t-elle vraiment à sa fin? Donald Trump promet une victoire rapide, mais la réalité pourrait être un peu plus compliquée. Le terrain iranien pourrait s'avérer un terrain glissant pour les États-Unis et pour Israël.
La structure même du régime de Téhéran, ainsi que les divergences naissantes entre Israéliens et Américains, semblent renforcer l'Iran et en toile de fond, ce conflit qui pourrait s'enliser.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Mathieu Jolivet, je suis ravie de te retrouver. Tu es de retour.
Ouais, salut Annalisa, bah, je suis très content d'être là avec toi.
La semaine dernière.
Surtout dans ce contexte sidérant. Ouais. Bah, j'étais quand même avec toi, un petit peu loin, mais le cœur y était pour comprendre un peu ce contexte totalement sidérant. Ouais.
Et donc cette semaine, tu reviens avec une question qu'on s'est beaucoup posée, qu'on se pose beaucoup ces derniers jours. Est-ce que vraiment la guerre en Iran touche à sa fin? Donald Trump, lui, le promet, et en même temps, il y a beaucoup d'indices qui semblent dire que c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer.
Oui, et pour ça, c'est important de comprendre en fait la structure du régime iranien. L'Iran a mis en place, il y a plusieurs années, une stratégie de défense qui est redoutablement efficace. Cette stratégie, ça s'appelle la défense mosaïque. Et en fait, tu as un des meilleurs analystes militaires, l'américain Robert Pape, qui l'explique très bien. L'idée, le concept, c'est que tu as 30 mini-armées en Iran qui sont totalement autonomes et qui sont éclatées à travers 30 provinces en Iran. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le chef d'état-major, si les têtes pensantes de l'armée iranienne sont neutralisées, ce qui a d'ailleurs été le cas fin février, eh bien, ils se mettent en mode autonome et à ce moment-là, tu as ces 30 mini-armées qui peuvent n'importe quand tirer n'importe quel missile, n'importe où, sur n'importe qui et surtout sans avoir à en référer à Téhéran. Et ça, c'est vraiment un système qui complique la donne pour Israël et Washington. Et si tu rajoutes à ça le fait qu'à chaque fois qu'un chef en Iran se fait neutraliser, tu as automatiquement 4 remplaçants qui arrivent et qui sont proposés, ça a été préparé en amont, et bien ça aussi ça complique la donne, ça fait que l'armée iranienne elle est super résiliente, qui dit résilient dit que ça peut durer, et en fait sur ce type de théâtre d'opération en Iran, et bien le temps stratégiquement il joue en la faveur de l'Iran.
C'est vrai que c'est fou parce que nous, on a une idée en Occident d'une armée pyramidale, non? Avec une tête et puis une hiérarchie qui s'élargit petit à petit. Là, c'est par cercle concentrique.
C'est par cercle concentrique et en fait, il faut aussi voir qu'en Iran, tu as deux armées totalement distinctes. Tu as l'armée dite régulière, on l'appelle l'Artesh, elle est héritée de l'époque du Shah, elle est composée de 350 000 soldats et tu as en parallèle les fameux gardiens de la révolution. Cette armée-là, elle a été créée en 1979. C'est vraiment l'armée idéologique du régime, cette armée-là. C'est le pilier militaire, c'est le pilier répressif et c'est aussi le pilier économique de l'Iran. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Ce corps de soldats, il est monté en puissance pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et au sein des gardiens de la révolution, tu as une branche qu'on appelle la force Al-Quds. Elle est chargée des opérations extérieures. Elle est composée de 5000 à 15000 cadres qui sont tous triés sur le volet. Ils sont réputés pour leur fidélité sans faille au noyau dirigeant. Et alors eux, ils sont prêts à mener des opérations clandestines qui peuvent aller jusque sur le sol américain. Et d'ailleurs, tu as le département de la justice américaine qui révélait en novembre 2024 l'implication d'un agent iranien qui était très actif sur le sol aux États-Unis et qui lui prévoyait carrément d'éliminer Donald Trump. Donc vraiment, ce corps des gardiens de la révolution, ils ont une culture sacrificielle et pour eux, décapiter le régime, en fait, ça incite plus à la vengeance qu'à la négociation.
D'ailleurs, le nouveau guide suprême qui vient d'être nommé, Mojtaba Khamenei, qui est le fils du précédent guide suprême, a l'énorme point fort d'être très proche des gardiens de la Révolution. Donc on se rend quand même compte d'à quel point le pouvoir religieux, ouais, politique est intimement lié à
Est-ce qui appuie la thèse d'un durcissement ou d'un renforcement du régime, ce qui n'est pas un bon point pour Donald Trump et Netanyahou.
Ce qui n'est peut-être pas un bon point non plus pour les Iraniens qui sont descendus dans la rue, qui ont manifesté leur désaccord avec un régime qui a été très répressif. Pour l'instant, on est loin de voir un changement de régime qui passe par la rue, mais qui passe pas par les airs non plus.
Oui, et alors ça, c'est un point qui est très important, ce que tu dis. En fait, si on regarde l'histoire des guerres contemporaines, il y a une constante qui se dégage. C'est ce que j'ai compris en écoutant justement l'analyste militaire Robert Pape, c'est que aucun régime de l'histoire moderne n'est tombé uniquement à cause des bombardements aériens. Ça veut dire que les seuls bombardements aériens, c'est insuffisant. Le risque de cette stratégie aérienne, c'est quoi ? C'est l'enlisement et c'est l'escalade. Ce schéma-là, c'est celui qui s'était produit au Vietnam. Il y avait l'opération Rolling Thunder, où les Américains avaient largué des centaines de milliers de tonnes de bombes. Ça n'avait pas suffi par les airs. La Maison-Blanche avait étendu les bombardements à l'époque au Laos et au Cambodge. Donc tu vois, c'était l'escalade qui avait été observée. Tout ça pour isoler Ho Chi Minh. La suite de l'histoire, on la connaît, c'était enlisement et retrait américain. C'est ça que redoutent aujourd'hui les stratèges de la défense au Pentagone. Plus une intervention étrangère s'intensifie et dure, plus elle alimente quoi ? Elle alimente le sentiment nationaliste. Et donc à terme, ça va produire l'effet totalement inverse que celui qui était recherché. C'est d'ailleurs ça qui s'était produit en Irak et en Afghanistan. C'est aussi l'un des risques majeurs dans le cas iranien aujourd'hui.
C'est peut-être un peu ce qui se passe, non ? Ce qu'on voit dans ces premiers jours de conflit, on voit que oui, Donald Trump a réussi à atteindre, Donald Trump et Netanyahou, bien sûr, ils ont réussi à atteindre leur cible principale, la plus symbolique, qui était le guide suprême, mais qu'en réalité, ils ont coupé la tête du régime, pas les tentacules, et que le reste des objectifs militaires sont moins facilement atteints.
Bah, si tu regardes rapidement, au 11e jour de guerre, qu'est-ce qu'on a ? On a Israël qui continue à bombarder le sud Liban, où tu as 760 000 personnes qui sont déplacées. Tu as la guerre qui est étendue à 14 pays, avec un impact qui est mondial. Tu as une crise qui devient énergétique, avec un détroit d'Hormuz totalement paralysé, et on commence à y placer des mines, ce qui est très très embêtant, on y reviendra sûrement. Sur le plan militaire et stratégique, tu as aussi l'Iran qui conserve 50% de ses missiles, tu as l'Iran qui conserve aussi de l'uranium enrichi, et puis sur le plan politique, on vient d'en parler, mais on semble assister à un durcissement du régime et non pas à son effondrement. Et puis enfin, au 11e jour de guerre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'essence, elle a augmenté de plus de 20% aux États-Unis. Donc ça, c'est compliqué pour Donald Trump, c'est aussi pour ça que cette semaine, il a dit que la guerre était presque finie. Là-dessus, le Wall Street Journal y voit une préparation de terrain politique, peut-être pour sortir, pour permettre à Donald Trump de sortir d'un théâtre d'opération où il risquerait de s'enliser. C'est pourquoi, pour Donald Trump, l'importance aujourd'hui, c'est d'aller très vite. C'est moins le cas d'ailleurs de Benjamin Netanyahou. Voilà. Et d'ailleurs, ça, je crois que c'est un point sur lequel toi, tu as bossé cette semaine pour essayer de comprendre les divergences de plus en plus fortes qu'il peut y avoir et qui se multiplient entre Netanyahou et Donald Trump.
En fait, ce qui est important dans cette situation, c'est que les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran ensemble, ils ont commencé cette opération ensemble, et qu'ils étaient parfaitement coordonnés. On a beaucoup loué dans les médias internationaux cette entente presque parfaite entre les Israéliens et les Américains du point de vue logistique, idéologique. Et en réalité, il semble que ce n'est plus totalement le cas. Il semble même que les deux sont en train de mener de guerres totalement différentes, avec des objectifs totalement différents. Alors, c'est vrai que pour Donald Trump, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'il veut, exactement quels sont ses objectifs. Mais en tout cas, lui, il a intérêt à une guerre rapide, tu le disais, qui affaiblit le régime iranien. Éventuellement, s'il arrive à placer un guide suprême, quelqu'un à la tête du pays qui lui plaît, ou du moins qui ne lui déplaît pas, ce n'est pas le cas pour l'instant avec... Avec le nouveau guide suprême. Mais l'idée, c'est surtout d'éviter au maximum une guerre longue qui pourrait déstabiliser toute la région. Pour Netanyahou, c'est exactement l'inverse. Netanyahou, lui, il veut éradiquer le régime iranien complètement, puisqu'il estime que c'est une menace existentielle pour Israël. Et d'ailleurs, il n'a pas tort. C'est ce qu'il voulait déjà pendant la guerre des 12 jours au mois de juin dernier. Mais là, c'était Donald Trump qui avait sonné la fin du conflit, qui avait dit maintenant... On s'arrête, stop.
Ça s'est vraiment resté au travers de la gorge de Netanyahou.
On sent que pour lui, ça a été un moment charnière dans sa politique. Et donc là, c'est l'occasion d'aller vraiment chercher la chute du régime iranien. Et pour lui-même, personnellement, pour Netanyahou, la chute du régime iranien représente un rêve politique. Ça fait 40 ans qu'il en rêve, ça fait 40 ans qu'il rêve d'un Moyen-Orient sans cette force iranienne, sans ce régime iranien. Donc tu vois, ils ont deux objectifs qui, à un moment, se sont alignés. Aujourd'hui, ils ne le sont plus vraiment.
Ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et d'ailleurs, quand tu dis que ça fait 40 ans, j'avais vu cette semaine que Netanyahou, en 1982, donc juste après la révolution islamique, était le numéro 2 de l'ambassade d'Israël à Washington. Et à l'époque, il avait vraiment ses portes d'entrée déjà à la Maison Blanche, et il avait déjà en tête son obsession iranienne, hein, donc qui ne date pas d'hier. Et dernière chose aussi, mais il y a un récit qui monte que j'entends cette semaine, qui est celui en fait d'une stratégie de Netanyahou où il y a des observateurs qui suivent Trump au quotidien et qui relatent le fait qu'ils ont passé le réveillon ensemble avec leur femme le 31 décembre. Oui. Et à ce moment-là, ils disent que c'est un moment peut-être fondateur dans ce qui se passe en Iran aujourd'hui, parce que à l'époque, dans le contexte, Netanyahou était face à un Trump totalement galvanisé à l'époque par l'opération au Venezuela. Netanyahou, qui est un animal politique, a compris qu'il pouvait jouer de l'hubris de Donald Trump et lui a dit bah on a peut-être des intérêts communs, c'est maintenant qu'il faut aller ensemble frapper l'Iran. Est-ce qu'ils assument leurs différences de vision sur le terrain iranien tous les deux?
En fait, ça commence un peu à se voir, surtout côté américain. Je vais te citer une phrase du secrétaire américain à la défense Pete Hegseth qui vient de dire il y a quelques jours, on enregistre mercredi, donc c'était hier, nos frappes suivent nos objectifs et leurs frappes suivent leurs objectifs. Donc tu vois, déjà, on est sur nos objectifs, leurs objectifs. Ouais. C'est quand même un peu différent par rapport à ce qu'on entendait il y a 10 jours. Donc tu vois, il y a un certain rapport de force où les États-Unis commencent à sentir quelque part qu'ils ne doivent pas laisser les Israéliens prendre le pas. Donald Trump l'a dit aussi il y a quelques jours, il a dit « Oui, peut-être que j'ai un peu forcé la main d'Israël dans ce conflit. J'ai forcé la main d'Israël pour aller attaquer l'Iran, pour remarquer encore une fois de plus que, oui, l'initiative est bien américaine. » Ce n'est pas ce qu'avait laissé entendre Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui lui avait laissé entendre au Congrès. Évidemment, c'était une faute politique, hein, ça lui a été beaucoup reproché. Il avait laissé entendre que c'était les États-Unis qui avaient suivi les Israéliens. Il disait, bon, les Israéliens allaient frapper l'Iran de toute façon, donc les Iraniens allaient riposter, évidemment, la cible allait être américaine, une des bases américaines dans la région. Donc, on a attaqué avec les Israéliens pour être dans l'attaque, pour prendre les devants et pas être la cible d'une réponse. Ouais. Donc,
là, on voit qu'il y a aussi la guerre du récit, la guerre de la communication. Il y a aussi un calendrier des opinions publiques qui sont pas forcément les mêmes et qu'il faut gérer du côté israélien et américain.
Voilà, t'as raison de le souligner, parce que là, pour le coup, le calendrier politique est un des seuls points sur lesquels les deux sont encore alignés. C'est-à-dire que...
Ils ont des élections à peu près au même moment.
Exactement. Et Donald Trump, ils ont tous les deux des élections prévues. Donc, pour évidemment, ils ont des objectifs très différents. Pour Netanyahou, l'idée, c'est d'y arriver en tant que chef de guerre victorieux qui contribue à faire disparaître une menace très importante pour son pays. Pour Donald Trump, c'est totalement l'inverse. C'est l'objectif, c'est de ne pas s'enliser dans une guerre qui peut coûter très cher. C'est d'arriver au midterm sans avoir perdu trop d'hommes, trop d'argent, trop de crédibilité politique dans un conflit qui est à l'autre bout de la planète. Et là, il y a l'importance de toute la galaxie MAGA, Make America Great Again, qui remarque encore une fois qu'il faut vraiment se concentrer sur l'Amérique. Le vice-président J.D. Vance fait partie de cette vague-là, et c'est pour ça aussi qu'il a été aussi discret sur cette guerre. Bah, les Américains commencent à se dire que là, leur président devient interventionniste, vraiment.
Et puis on voit aussi qu'il y a la nouvelle doctrine de défense de Donald Trump qu'il a trouvé dans la revue de sécurité intérieure des États-Unis, où il déroule le concept d'hémisphère. Il dit que je suis le shérif de l'hémisphère nord, et en gros tout ce récit qu'il nous raconte depuis des mois Donald Trump et à son opinion publique, c'est ce qui est loin de moi, je le laisse aux autres. En revanche, ce qui est dans mon hémisphère, c'est moi le shérif. L'Iran, c'est loin de chez lui.
Exactement.
C'est ça contredit.
Alors que pour les Israéliens, c'est une guerre qui est pour l'instant plutôt bien acceptée par la population. On a entendu les Israéliens sur beaucoup de médias ces derniers jours dire effectivement c'est un prix à payer. Oui, c'est dur de voir des victimes civiles, mais c'est un prix à payer. C'était à peu près ce qu'on entendait. Encore une fois, ça s'explique par la proximité.
Et alors, est-ce que toutes ces divergences que tu relates là, entre Netanyahou et Donald Trump, elles se voient aussi sur le terrain opérationnel, concrètement sur les cibles, les frappes, les choix stratégiques sur le terrain?
Écoute, ça commence un petit peu à se voir. Ça s'est vu notamment dimanche dernier, quand les Israéliens ont frappé des dépôts de carburant à Téhéran. Et selon Axios, ça a beaucoup surpris les Américains qui n'étaient pas vraiment d'accord avec cette opération. Donald Trump, lui, n'a pas approuvé la stratégie israélienne. C'est ce que disent des sources proches citées par Axios, parce que c'est une opération qui frappe la population civile, donc encore une fois, qui pourrait mener à un durcissement du régime, et surtout qui peut créer une escalade dangereuse. Donc tu vois, il y a vraiment des petites frictions qui commencent à apparaître. Moi, je pense qu'il faut vraiment surveiller ce rapprochement-là et cette alliance-là qui est évidemment inébranlable, super solide, mais qu'il faut vraiment la surveiller. Et il y a plusieurs terrains sur lesquels on va la surveiller, notamment l'île de Karg.
Ouais, cette île de Karg, moi j'en ai parlé aussi un petit peu cette semaine. Je vais être franc avec toi, je l'ai découverte, hein, cette île de Karg, je la connaissais pas avant. C'est une île qui est à une vingtaine de kilomètres des côtes iraniennes au nord du golfe Persique. En fait, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup cette semaine? C'est parce que c'est là-bas qu'on trouve le principal terminal d'exportation de pétrole iranien. En fait, tu as 80% des exportations de pétrole iranien qui transitent par cette île de Karg. C'est le robinet
financier.
Et donc, en fait, Donald Trump, mettre la main ou sécuriser l'île de Karg, ça a un double avantage pour Donald Trump. Un, ça lui permet de couper les cordons de la bourse, effectivement, comme tu dis, des gardiens de la révolution, sachant que la moitié, il contrôle la moitié des recettes pétrolières iraniennes, hein, les gardiens de la révolution. Oui. Donc, il coupe le robinet financier. Et deuxième avantage, c'est que on voit que stratégiquement, Trump, il se projette sur un Iran qui est totalement vassalisé. Il se voit en fait travaillant main dans la main avec un nouveau régime pour exploiter les ressources pétrolières. Un peu finalement comme ce qu'il avait fait avec le Venezuela. Mm-hmm. C'est un
Alors,
peu
les Israéliens, eux, ils veulent faire l'inverse.
Exactement.
Ils veulent détruire totalement Karg et l'industrie pétrolière.
Exactement. Et on voit à quel point l'Iran est en train de résister sur ce point-là. D'ailleurs, tu as le porte-parole des gardiens de la Révolution qui a fait savoir cette semaine que pas une seule goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient. Et quand j'ai entendu ça, d'ailleurs, j'ai eu un flash. Je me suis rappelé, ça nous rappelle Hugo Chavez au Venezuela, parce que tu avais Hugo Chavez, c'était en mai 2007, il était debout, il haranguait la foule sur la ceinture de l'Orénoque, qui est un endroit en fait où tu as les plus grandes réserves de pétrole au monde, et il haranguait la foule et il parlait aux Américains et il leur disait « Tant que je serai vivant, je pourrais même manger des cailloux, même si j'avais à manger des cailloux, vous n'aurez pas une seule goutte de pétrole vénézuélien. » Et donc, je trouve le parallèle intéressant de voir comment tu as des régimes qui, eux aussi, essayent de couper le robinet pétrolier auprès des Américains. Et on sait que le pétrole, c'est quand même constitutif de l'histoire des États-Unis. C'est constitutif aussi de l'histoire politique de Donald Trump. C'est son drill, baby drill. Voilà, donc on est sur un point intéressant. Pour terminer, tu surveilles quoi, toi, cette semaine,
Écoute,
Annalisa?
Je vais surveiller, moi aussi, un asset stratégique du régime iranien. C'est son uranium, parce que moi je pense que c'est à travers son uranium que va se décider la suite du conflit. On sait que Donald Trump a répété plusieurs fois qu'il ne veut surtout pas que les Iraniens aient accès à l'arme nucléaire. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des kilos et des kilos d'uranium enrichi.
Plus de 400, hein, je crois. Là.
Voilà, 440 enrichi à 60%. Donc ça peut servir bien évidemment pour des...
Fabriquer des bombes.
Exactement, pour fabriquer des bombes, très clairement, ce n'est pas à usage civil. Et on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas exactement où se trouve cet uranium. On le pense entreposé sous terre, on le pense près d'Ispahan, on le pense sur le site nucléaire de Natanz. Enfin, on ne sait pas où il est, cet uranium. Donald Trump et les Américains ne le savent peut-être pas non plus. Ils ont sans doute des indices, des idées. Mais...
On revient à ce que je te racontais tout à l'heure sur la stratégie aérienne qui ne suffit pas dans l'histoire des guerres modernes. Est-ce que, par exemple, sur ce point clé de l'uranium enrichi, ils sont obligés d'envoyer des troupes au sol? Ou est-ce que, quelque part, la technologie et les radars aujourd'hui peuvent suffire à repérer le...
C'est toute la question pour Donald Trump. Et d'ailleurs, on revient à la question de la crédibilité politique et de l'opinion publique dans le pays, aux États-Unis. c'est est-ce que ça vaut le coup d'envoyer boots on the ground, donc d'envoyer des militaires physiquement sur place, si c'est la seule manière de récupérer cet uranium enrichi, ou est-ce que Trump va faire une TACO? Tu sais cet acronyme,
ouais.
Trump always chickens out, donc Trump recule toujours hein, comme une dinde, ouais. Comme un poulet. En fait, Trump a peur, quoi. Finalement, il s'engage.
Tu fais bien le TACO.
Tu vois, c'est pas l'imitation. Non, mais Trump qui parle très fort, qui ouais. menace, qui va très loin dans ses mots et dans ses prises de parole, et après, en réalité, il recule face à la réalité du terrain. Moi, je pense que c'est vraiment sur l'uranium que ça va se décider. Est-ce que Donald Trump va réellement aller s'embourber dans un conflit en Iran, en plus dans une région géographiquement difficile, c'est une région très montagneuse, c'est vraiment compliqué du point de vue géographique, ou est-ce qu'il va nous faire un taco? Donc est-ce qu'il va reculer? Je pense que c'est par là que va se décider la
suite. De toute façon, ça bouge d'heure en heure. Évidemment, on décrypte tout ça pour vous. On continuera la semaine prochaine dans l'ordre du monde à suivre cette recomposition historique du Moyen-Orient. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette aussi un peu pour savoir à quoi pourrait ressembler le nouveau Moyen-Orient. Parce que là-dessus, il y a peut-être des divergences. Chacun voit un futur du Moyen-Orient à sa manière. Ça peut être aussi un point intéressant qu'on pourra aborder avec vous. Dites-nous, vous aussi, quels sont les points autour de ce conflit sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on va s'y pencher. C'est aussi pour vous qu'on fait tous ces décryptages.
Et puis vous pouvez nous suivre partout, vous pouvez nous trouver bien évidemment sur la plateforme BFM Business, sur l'appli BFM TV, sur YouTube. Sur Spotify, sur toutes les applis. Bref, normalement on est partout, on est facile à trouver.
Exactement.
Et, laissez-nous vos petits commentaires pour nous dire ce que
on
vous
pensez. On y répondra avec plaisir.
Avec plaisir. Ben, on se voit la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Plus, hein.
Non, je t'abandonne plus. Promis. Toi non plus. Hein. Tu me laisses pas tout seul. Hein.
Allez,
salut Annalisa. Au revoir à tous. À la semaine prochaine.